avec eh bien encore le vélo. Hein. On attend nos amis du waterpolo. J'espère qu'ils sont pas coulés. Hein. Hein, voilà. Alors Michel, il y a quand même des dates importantes. Les épreuves cyclistes dans la région, elles sont quand même, Dieu merci, encore importantes. Il y a deux grands donc rendez-vous. C'est le Tour cycliste et puis la Sud Yvelines aussi.
Alors pour le Tour, ce sera donc la 11e édition. Il se situera du 8 au 11 mai 2008. Alors de la façon suivante, la première étape se déroulera au Mureau, un prologue de 78 km sur un parcours d'environ 7 km passant les Mureaux, Écquevilly, Boifle à parcourir. La première journée est quand même assez complète puisqu'il y aura une course départementale juste avant le Tour et il y aura une course en e-sport comme en 2007.
D'accord.
Le vendredi, ce sera un contre-la-montre par équipe à Gambais, donc pas loin d'ici, de 22 km. Le samedi 10 mai, ce sera en ligne Bonnières, mm-hmm. hein, avec 103 km au programme. Et le dimanche 11 mai, comme depuis 10 ans, l'arrivée sera Côte de Beul, au bout de 88 km.
Il y a combien de clubs qui vont participer à cette...
30 clubs. On a 30 clubs. En 2007, on a une équipe étrangère. On devrait en avoir 3 cette année. On avait une équipe britannique, hein, du sud de Londres. Il y a une équipe hollandaise qui s'est déjà proposée et une équipe belge.
D'accord. Et alors, il y a le Tour cycliste aussi de la Sud-Yvelines, hein, en parallèle de ce Tour cycliste. Ça va être aux mêmes dates, dans des dates différentes
Là, non, j'ai pas l'information. D'accord. J'ai pas l'information. Je crois que Olivier Bourdin, le président, devait voir un petit peu quelle date nous devions faire le Tour cycliste des Yvelines pour se projeter.
C'est une bonne chose d'avoir créé comme ça un Sud-Yvelines qui est un peu un copier-coller du Tour cycliste, Michel.
Je pense,
quand même le dire. C'est un peu calqué quand même sur votre modèle d'organisation. Hein.
Mais je lui en veux pas.
Oui,
loin de là. Ouais. Je pense qu'effectivement, le Tour des Yvelines, c'est quand même un tour assez dur, qui dure 4 jours. La Sud-Yvelines dure 2 jours avec 4 étapes. Je pense que c'est un autre public. Et je crois que plus il y a de cyclistes qui peuvent se faire plaisir, et plus le cyclisme lui-même en sortira grandi.
Vous êtes, je crois, le seul département qui avait un tour cycliste. Hein.
C'est la seule épreuve.
Il y en a plus dans les autres départements. Hein.
Ben, il y a d'autres courses, souvent de 3 jours ou de 3 étapes, mais c'est la seule de France hein, sur 4 étapes.
Très bien. Donc, au niveau des licenciés, des inscriptions, qu'est-ce qu'il faut faire ? On peut déjà venir rejoindre les clubs. On téléphone dans les comités départementaux.
Ça s'est déjà fait. Donc, les mutations étant prévues le 15 novembre, donc beaucoup de coureurs essayent de savoir quel club ils peuvent rejoindre ou quel club ils peuvent partir. Et c'est vrai que on a malheureusement un club qui ne fait plus partie pratiquement de l'élite. L'élite départementale, c'est le CA Mantes-la-Ville qui avait une équipe de première catégorie et qui a préféré se consacrer à d'autres catégories cette année.
D'accord, très bien. Vous avez aussi des activités dans le comité départemental olympique et sportif des Yvelines, Michel. Donc, on va aussi quand même parler de ce qui s'est passé donc pour les foulées olympiques, c'était le 23 septembre, parce qu'il y avait aussi la présence d'un cycliste qui était un peu le parrain de cette épreuve.
On avait Philippe Hermenot qui était présent. Nous avons organisé une gentleman. On n'avait pas eu beaucoup de personnes qui se sont inscrites, mais comme c'était la première édition, mais très bien réussi, très bien réussi. Il a fait très beau et tous les sports pratiquement étaient représentés.
La gentleman, c'est aussi un peu, je dirais, perdu de mode là. Hein. C'était un peu dans l'air du temps.
Et ça revient.
Il y en a plus trop quand même.
Ça revient. Mais disons qu'on a toujours les mêmes soucis puisque pour la préfecture, une gentleman, c'est une course cycliste. Donc, il nous faut les autorisations préfectorales, etc., etc.
Oui, d'accord. Très bien. Donc, on va quand même parler maintenant, parce qu'on a encore un peu plus de temps que prévu, hein, des activités du DOS. Je suppose que vous allez accompagner tous les grands événements sportifs. Vous accompagnez tous les grands événements, comme le rugby, par exemple, dont on a beaucoup parlé sur notre antenne. Hein. On en a parlé donc à travers le mondial. Jean-Claude Séguier était un de nos invités. Hein. Ça a été un moment énorme pour vous, parce que en plus, je crois que les Anglais sont venus sur Versailles.
C'est tout à fait. Donc, nous avons et Jean-Claude Séguier et Jean-Claude Redon. qui ont animé tout Versailles et les environs, puisque Jean-Claude Redon, lui, était carrément responsable de l'équipe anglaise qui était présente à Versailles. Mmh.
Alors, on se rappelle qu'il y a eu les moins de 19 ans, hein, il y a quelques années, 4 ans, on avait eu gagné déjà par les Bocs, et puis les Bocs, ils ont remis ça, donc, cette année. Vous êtes obligé d'accompagner les grandes manifestations comme ça, quand on est au comité départemental olympique et sportif. Les Jeux, par exemple, en 2012, ça a dû être une énorme déception, parce que les Yvelines auraient été un département phare, quand même, des Jeux.
Comme beaucoup de Français, je crois qu'on les avait motivés pour qu'ils puissent être solidaires de tout le mouvement sportif, que ce, à partir de M. Serrandour jusqu'au comité départementaux, et je crois qu'on a été déçus, mais très profondément. La blessure est encore vivante.
Oui. On a senti quand même, hein, parce que ça, en plus, ça aurait été une immense récompense pour tous ces bénévoles, pour tous ces amoureux du sport qui œuvrent dans les différentes sections.
Dans pratiquement tous les sports, nous avions fait des comités de pilotage, des comités pour que tout, que ce soit les dirigeants, les parents, tout le monde s'est vraiment donné la main, tout le monde était vraiment confiant, et je crois, est-ce qu'on a été trahi, est-ce qu'on l'a pas été, je sais pas, mais c'est dur, on en parlait encore.
Ouais, surtout qu'on a trouvé la décision très injuste, parce que c'est vrai que le dossier était très bon. Bon, après, c'est le milieu affairiste qui a fait la différence. Vous avez ce sentiment-là aussi, vous ?
Pour moi, je pense que c'est plus la politique, c'est la politique politicienne. Ouais. Hein, et je crois que là, ça nous passe au-dessus.
Très bien. Alors, on va justement, Olivier, oui ?
Juste pour ajouter un mot par rapport aux Jeux Olympiques de 2012, Londres, en fait, la ville qui a été sélectionnée, a tout à faire finalement. Mmh. Elle a tout à construire, parce qu'il y a le stade de Wembley finalement qui a été refait à neuf, mais sinon il y a toutes les infrastructures.
Ça va coûter plus cher que prévu en plus.
Ça va coûter beaucoup plus cher que prévu, alors qu'en France finalement, à part le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines et la piscine olympique qui devait se faire du côté des Batignolles, je crois, tout était là précisément, parce qu'il y avait le Stade de France, il y a Bercy, et diverses...
Parc des Princes, etc. Ouais. Et puis il y avait le centre de Satory aussi au niveau tir, qui va être aussi mis en route. Hein. Ça aussi, le projet, il continue. Hein, pour... Non, il est arrêté.
À mon avis,
d'accord, il est arrêté.
Oui, parce que il me semble, je ne vais pas trop m'avancer, mais il me semble que le pas de tir qui devait être fait sur Satory devait être financé comme le Vélodrome par tout ce qui est 2012. Et là, pratiquement, l'État a demandé à la ville de Versailles une très grosse participation financière qu'elle ne peut pas assumer.
Ah, d'accord. Donc c'est pas une très bonne nouvelle, ça.
Il me semble.
Oui, ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Alors, il y aura le vélodrome, mais il y aura pas le pâtir. Alors, on va rester dans le domaine du ballon ovale, hein, puisque je vous l'ai dit, on a vécu beaucoup de valises sur l'antenne d'Hervieux pendant 6 semaines. Hein. Il y a eu un énorme succès populaire. Bon, l'équipe de France a pas gagné, elle a pas fait ce que le hand et le foot ont fait, hein, c'est-à-dire gagner en France. Mais nous, on a justement voulu en savoir un peu plus sur cet effet après mondial. Alors, on s'est rendu au stade de Francière, hein, pour voir le match du top 14, hein, stade français donc contre Clermont-Ferrand. C'est un peu la remake du championnat, la finale du championnat, la belle finale du championnat qu'on avait donc suivi au mois de juin, hein, qui avait permis au stade français de renverser la situation et de devenir champion de France. Alors on a suivi d'abord un match de très bonne qualité, très bon match, 23-17, ça a été un match très ouvert, très serré, hein, ça en est fallu de peu, mais enfin c'est le stade français qui a su s'imposer avec un essai donc refusé en fin de match pour cette équipe de Clermont-Ferrand. Et ben on a fait comme certains confrères, on a pris notre micro et ensuite on a fait un petit micro-trottoir donc en direct dans l'émission de Sullivan dans les travées, hein, du Stade de France, pour en savoir comment on avait vécu cet après-mondial et comment on avait retrouvé dans le monde du ballon ovale le quotidien. Donc on va écouter ce qui est passé hier en direct dans la génération Hit de notre ami Sullivan. C'était donc aux alentours de 17h20 à la sortie du Stade de France.
Ouais, effectivement, devant un lieu mythique, hein, du sport français, le Stade de France, où on a en quelque sorte prolongé ces 6 semaines, hein, de Coupe du Monde pour le ballon ovale, et avec une victoire au cours d'un match qui a été très sympa. Donc victoire du Stade français 23-17. Alors j'ai à mes côtés un supporter du Stade français et un supporter donc de Clermont-Ferrand. Alors je vais d'abord me retourner vers les vainqueurs. Ça s'est passé comment? Vous êtes un monsieur satisfait, hein, aujourd'hui?
Oui, satisfait, mais j'avoue qu'on s'en sort bien quand même.
Oui, surtout sur la fin de match, hein, deuxième mi-temps nettement dominé par cette équipe de Clermont quand même. Hein.
Ouais, tout à fait. On a baissé pied physiquement, mais à mon avis, l'essai était valable.
Oui. Alors, ce match quand même a prolongé ces 6 semaines de fête qu'on a vues pour le rugby à travers ce mondial.
Ah ouais, mais je trouve qu'il y avait plus d'ambiance à l'équipe de France.
Ouais.
Ouais. Ouais, je préfère aller à l'Équipe de France maintenant. Bon.
D'accord. Vous êtes un habitué des matchs du Stade français où vous venez régulièrement sur Jean Moins, ou alors c'était une grande première pour vous?
Non, c'était une grande première, c'était l'occasion. J'ai emmené mes enfants et ma famille, donc c'était agréable. Vraiment à renouveler.
Ouais. Et qu'est-ce qui vous plaît, c'est toute cette ambiance de fête? Parce qu'on a eu un match, certes, mais on a eu aussi Calégéro, on a eu donc les Pompongers, on a eu un beau feu d'artifice aussi.
Mmh. Oui, c'est un spectacle, et j'avoue que ce qui est bien, c'est de mélanger avec les supporters sans craindre quoi que ce soit comme au foot. Quoi. Donc,
Très bien. Alors vous êtes accompagné de jeunes qui sont des dingues de ballon ovale, ou ils le découvrent aussi, ce sport?
Non, ils sont fouteux comme moi, mais on aime le sport en général, surtout le sport d'équipe. Et là, ça se passe très très bien. Donc, voilà.
Très bien. Bah, je vais leur demander une impression, comment ils ont vécu ce match, et quel est leur joueur fétiche, leur joueur modèle? Alors
David Scella.
David Scella.
Sarzewski.
Sarzewski, d'accord, ok. Et toi?
Boxis,
d'accord. Comment il est passé? C'est toi? Sardinski. D'accord, ok. Donc Sardinski. En tout cas, je vais rester avec vous parce qu'on va se retourner du côté des perdants. Hein, mm-hmm. Clermont-Ferrand, 23-17. Vous approuvez votre collègue du Stade français quand il a dit que c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, le Stade français s'en tire quand même plutôt bien. Hein.
Ouais, ben un petit peu frustré suite à l'essai refusé. Voilà, mais moi, bon, c'est content du spectacle. Voilà, bon enfant, festif.
Alors vous résidez en région parisienne aussi, hein. Oui. Supporter donc de Clermont-Ferrand, un homme du rugby, vous venez aussi du foot, et le rugby c'est un sport occasionnel pour vous?
Bah, je préfère la mentalité entre guillemets, puis le rugby me plaît plus.
Cette ambiance de fête qui draine autour d'un match de championnat, qui était certes la revanche du championnat, hein, les deux meilleures équipes de la saison dernière, toute cette ambiance de fête autour, tout ce côté festif, ça aussi ça porte un plus. Hein.
C'est important, mais c'est quand même secondaire par rapport au match, mais bon, c'est bien, ça amène du monde, mais bon, il y a d'autres stades plus petits dans lesquels la fête est grande, parce que le rugby est quand même le plus important. Voilà.
Donc, pas trop déçu pour votre équipe fétiche? Bon, deuxième défaite contre le français en quelques semaines.
Déçu, mais bon, la victoire qui comptera, ça sera celle du mois de mai ou juin. Voilà, en demi ou en finale du championnat.
Très bien, en tout cas, merci pour donc vos impressions.
Voilà, effectivement, c'était donc hier en direct dans la génération 8 de notre ami Sullivan. Hein, on a fait un petit micro-trottoir sur ce mondial, sur ce premier match donc du top 14 qui suivait le mondial. Ce qui est assez quand même sympa, Michel Martin, on va vous garder parce qu'apparemment, on l'a dit, hein, on a une petite défection ce matin des gens du waterpolo, mais c'est pas grave, comme vous êtes multisport, on va pouvoir parler aussi des activités du dos. Hein, ça fera plaisir à tous nos amis Jean-Loup Leplat et donc Gabriel Tissier. D'une façon générale. D'abord, ce qui est quand même assez remarquable, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une énorme fête populaire dans toutes les manifestations que la France a organisées. Hein, on parlait des Jeux qu'on aurait mérité, mais on a eu les Jeux d'hiver d'Albertville, on a eu le Mondial de foot, on a eu les Mondiaux pour l'athlétisme, on a eu ce Mondial donc pour le ballon ovale. Ce qui est remarquable, c'est qu'il y a une fête populaire immense à chaque fois. On prouve qu'on a mérité de recevoir ces grands événements sportifs.
Ben, je crois que effectivement, toutes les fédérations, quelles qu'elles soient aujourd'hui, ont des moyens de communication énormes pour justement sensibiliser le public. Et ça c'est quand même une bonne chose, parce que après il y a quelques années, on se disait, ah ben oui, il y a tel championnat, je suis pas au courant, on n'a pas parlé. Et je crois que justement, c'est cette communication qui fait que le public a un certain engouement sur tous les événements sportifs de valeur.
Ça prouve que le sport est fédérateur, que finalement, on arrive à oublier ces quelques soucis à travers tous ces grands événements sportifs. Bon, ça change pas la vie, mais je veux dire, ça permet de passer un bon moment, parce que on le voit aussi sur le foot, sur le rugby, on l'a vu, on le voit même sur les grands événements comme le Tour de France. On a des gens qui sont occasionnels, qui viennent s'intéresser au sport, parce que c'est 3 semaines, 1 mois de fête, quoi.
On s'aperçoit effectivement, et je crois qu'aujourd'hui, chaque individu a besoin du sport. Mmh. Le sport dans toutes ses formes, que ce soit pour aller faire 3 km le dimanche matin, que ce soit pour aller voir des réels sportifs, et c'est vrai que tous les sports d'équipe ont toujours été agrémentés de beaucoup de public.
Mmh. Et puis ça attire aussi indirectement du monde des pratiquants. Hein. On veut s'identifier aux grands champions pour l'athlétisme, pour le rugby, pour le foot, après une grande compétition.
Mais on s'aperçoit que que ce soit les fédérations, que ce soit les communautés de communes, toutes les installations sont construites aujourd'hui, le sport a quand même sa place, et notamment auprès de l'insertion, du social, et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus enlever le sport de la vie normale d'un individu.
Alors on en parlait avec M. le député Jean-Frédéric Boisson, hein, qui est un féru de sport, qui était notre invité il y a 15 jours, c'est aussi une belle reconnaissance pour le monde du sport, parce qu'il y a une vingtaine d'années, ça faisait donc ringard parler de sport dans les milieux autorisés, aujourd'hui c'est la conversation numéro un.
Mais je crois que à travers le sport, il y a une identification certaine de chacun. Et je crois que le sport, si on peut le comparer, justement, le rugby nous a donné une image merveilleuse, que ce soit... Alors c'est vrai qu'ils ont été un peu plus suivis parce que l'équipe de France était là, mais ça n'empêche pas que tous les records d'audience ont été battus, multipliés par X. C'est énorme. Mais tous les sports, absolument tous les sports. Là, bientôt, on va bientôt avoir à la télévision les sports de glace et le hand également. Et je pense que nécessairement, aujourd'hui, l'individu, avec tous les problèmes qu'il peut avoir dans la société, ça peut être un échappatoire.
Ouais, bon, parce qu'on l'a dit, bon, il n'y a pas eu donc les résultats à l'arrivée, ça, il manque le petit quelque chose au bout, mais c'est un phénomène qui va durer. Le rugby, il est maintenant devenu vraiment le sport numéro 2 par équipe en France, après le foot, on l'a vu encore hier. Hein.
Mais c'est vrai que chacun veut gagner. Ouais. Mais le sport est là justement pour remettre les choses en place. Mmh. C'est qu'il y a des valeurs qui existent, il y a des niveaux de compétiteurs et qui naturellement sont devant les autres. Alors de temps en temps, il peut avoir des énormités et des exploits, comme l'équipe de France a fait à Cardiff. Mais ça n'empêche pas qu'il y a, et je crois que c'est Mazot qui disait ça, la France est à la quatrième place, elle est à sa place.
Mmh, ouais, c'est vrai. Alors donc, vous, au comité départemental, on l'a dit, hein, vous accompagnez tous ces grands événements sportifs, hein, on l'a vu pour le rugby sur les Yvelines, mais il y a aussi d'autres grands événements auxquels vous êtes vous, Michel, sur des thèmes liés, des grands thèmes liés au sport actuel, au sport moderne.
Mais chaque année, le comité olympique départemental organise trois nuits de débat qui sont animés par notre président Jean-Louis Leplat. Ouais, ouais. Il se trouve que là, le prochain est fixé au jeudi 15 novembre 2007 à partir de 19h à la Maison des Familles, rue Jean Zé à Trappes.
D'accord.
Et quel est le thème ? Ouais. Le thème, les bons usages des nouvelles technologies de communication et d'information. Et je crois que dans tous les clubs, dans tous les comités départementaux, aujourd'hui, il y a des possibilités de communication, telles que RVE aujourd'hui s'en est une. Mm-hmm. Et je crois qu'il faut les connaître entièrement, justement pour donner des éléments aux dirigeants de pouvoir communiquer.
Mm-hmm. Alors, vous en faites combien de dîners débats par an ? Une dizaine, une quinzaine ?
Trois.
Trois par an ?
Oui, on croirait qu'on en fait davantage.
Trois par an ?
Effectivement. Oui.
Ça fait un tous les trimestres à peu près.
Oui, en fait.
Bon, c'est énorme déjà préparé.
C'est parce que nous faisons beaucoup de communication autour.
Voilà, c'est ça, on croit qu'il y en a. D'accord.
Alors, en dehors des trois dîners-débats, il y a le colloque médical. Fait le septième. Donc, le prochain sera le 28 mars. Mm-hmm. C'est tous les ans fin mars. Et le prochain, ce sera sur les maladies et les accidents du sport.
Oui, alors, c'est hyper intéressant parce que nous, on a eu l'occasion d'y assister à certains. On a vu, je me rappelle, une année, il y avait justement, ça devait être du côté de Conflans-Sainte-Honorine, il y avait un colloque sur le dopage dans le sport.
Hein.
Il y avait eu un champion d'aviron, d'ailleurs, qui avait été présent. On a eu aussi, je me souviens, sur Rambouillet, il y avait aussi la Convention nationale pour le sport, hein, il faut s'en rappeler aussi. Et puis, récemment, il y a eu un colloque pour le sport à plus de 40 ans.
C'était
à Clairefontaine. C'était sympa. Hein.
Tout à fait.
Ça aussi, c'est un phénomène qui est quand même assez important, hein, le sport à 40 ans. Et on a vu justement Albert Mériadec qui est venu, qui était cycliste, hein, qui est venu nous parler de son parcours.
Tout à fait. Et je pense que c'est le rôle du CDOS, effectivement, d'organiser soit des débats, soit colloques médicaux, pour pouvoir non seulement informer, mais donner la parole à certains pratiquants. Au prochain colloque médical, nous l'espérons, mais très certainement, Sandra Laura, qui sera présente. Ah, voilà. Et nous avons aussi un autre garçon, un jeune, qui a été pris du diabète, avec justement des professeurs qui seront là pour expliquer un petit peu comment accompagner, que ce soit l'accidenté du sport ou que ce soit le malade.
C'est pour quand ce débat là?
Le 28 mars.
Ah, ça c'est hyper.
Et justement à l'université, pas, ouais, ouais. À l'université de Saint-Quentin.
D'accord, ouais, bah on y sera parce que Sandra, donc Laura, c'est vraiment un, on est tout, de tout cœur avec elle, hein, pour oui. qu'elle puisse continuer dans son énorme combat. Hein.
Donc elle doit nous confirmer sa présence, mais déjà les instances du ski nous ont dit qu'il n'y avait pas de souci.
Très bien. Comment sont choisis les thèmes de ces dîners-débats, Michel ?
Alors, ils nous sont dirigés d'une part par les observations ministérielles. Le ministère nous donne en début d'année des orientations. Il y a le carnet 21, l'agenda 21 d'Henri Séandour du CNSF. Et à partir de là, on essaye de coller à des événements du département.
D'accord, ok. Et il y a d'autres thèmes qui vont donc arriver dans les prochaines...
On sait
déjà
pas trop.
Des petites idées sur les prochains thèmes. Bon, parce qu'à un moment, il y a toujours les mêmes problèmes qui reviennent, non?
C'est même... Bah, on a eu l'obésité qu'on a traitée sur Mantes-la-Jolie. Mais bon, rien n'est fait d'avance. Il faut savoir que pour organiser un colloque, il nous faut quand même entre 3 et 4 mois.
Bah oui, c'est ça. Ouais. Et puis, les gens sont réceptifs. Il y a des suites après? Vous avez des bons retours
Tout à fait. On a un public qui est toujours... Ouais. Très, très féru de revenir. Et puis parfois, c'est le public qui nous dit ben, ce serait bien de traiter tel ou tel sujet. Mmh. Alors maintenant, les sujets peuvent être intéressants. Encore faut-il ensuite trouver des intervenants.
Par exemple, la Convention nationale pour le sport, hein, dont on avait parlé lors d'un colloque sur Rambouillet, est-ce que ça a beaucoup avancé dans le domaine du sport?
Ça a avancé pour certains sports, c'est vrai. Et je crois que c'est pas terminé. Hein. Nous étions en congrès à Grenoble. Et effectivement, le Comité olympique national a parlé du. La convention collective du sport, c'est vrai que ça pose des soucis supplémentaires aux clubs, non seulement pour essayer de classer tous leurs salariés, mais ça coûte plus cher aux clubs aussi.
Ouais, c'est ça. Parce que certains ont dit que cette convention, elle était un peu pour les clubs qui avaient des moyens, quoi. C'est un peu le problème. Il y avait beaucoup de réticences, quand même.
D'un autre côté, bon, moi, je me situe davantage du club parce qu'on dirige des clubs. D'un côté, il y a aussi la sécurité des salariés. Et c'est vrai que les salariés aujourd'hui ne savaient pas trop sur telle convention collective ils étaient. Ils étaient normalement sur l'animation, mais ils ont été refusés par ce système-là. Donc, il y a quand même une protection du salarié dans le monde de sportifs, sachant que, comme tu le disais tout à l'heure, le monde sportif s'étoffe de plus en plus, et il faut quand même, c'est quand même aujourd'hui, il faut savoir, c'est 400 000 emplois qu'il y a dans le sport,
je
dis bien 400 000 emplois, sans compter les précaires.
Ouais, c'est bien que le sport soit en plus créateur d'emplois, un domaine aujourd'hui qui passionne tout le monde. C'est bien qu'en plus il crée des emplois, quoi.
Mais d'autant plus que là, justement, tu parlais de la convention collective nationale du sport. Nous sommes à une charnière entre les brevets d'État, entre les brevets professionnels, les CAP professionnels. Je crois que aujourd'hui, et je pense qu'encore pendant 2 ou 3 ans, on va essayer de mieux cerner les filières, justement, parce qu'il y a beaucoup qui partent avec leur bac. À la fac, et ils vont faire un master de gestion sur le sport, et qui ne débouche pas trop forcément sur des emplois sportifs.
D'accord. Alors, Michel, ensuite, on disait que, comme colloque, il y avait aussi eu un dîner-débat, donc on en parlait, hein, sur le centre de foot de Clairefontaine, sur le sport à plus de 40 ans, où là, on a eu des informations très intéressantes. Hein. On peut pratiquer le sport de compétition à plus de 40 ans. C'était très bien, ce colloque. Hein. On a eu des bonnes infos. On parlait d'Albert Mériadec, mais on a eu des tas d'exemples qu'avec un peu de précaution, on pouvait pratiquer le sport en compétition à plus de 40 ans.
Bah, disons que ça a permis de remettre les choses en place par rapport aux idées reçues, et c'est vrai qu'il y a une forme de compétition à pouvoir faire après 40 ans, avec un suivi médical. Et les professeurs qui étaient présents en disant, mais effectivement, il faut faire du sport après 40 ans, mais sous certaines conditions. Il ne s'agit pas non plus de dire, voilà, je vais être champion du monde, master, alors que pratiquement, ils n'avaient pratiquement rien pratiqué avant. Je crois qu'il y a toute une évolution à pouvoir faire respecter et se respecter soi-même.
Alors, parmi les grandes actions du DOS, hein, en dehors donc naturellement de ce dîner débat, aussi des foulées olympiques qui se déroulent en septembre. Il y a aussi la fête du sport au mois de mai. Hein. Il y a donc cette grande fête donc du sport au mois d'octobre qui est les foulées olympiques, hein, fin septembre, début octobre. Et puis l'autre grande fête, c'est la fête du sport qu'on trouve au mois de mai, au mois de juin.
Tout à fait. Juin, ça fait juin. Je crois que les foulées olympiques sont reparties pour une autre édition encore à Buc. Mm-hmm. Ça va être le 5 octobre 2008. Mais d'un côté, entre deux, il va se situer quand même la remise des médailles, des médailles olympiques qui vont se situer dans la grande salle de la mairie de Versailles. Ouais. C'est prévu le 23 janvier, je crois, où là, pratiquement, tous les sportifs, tous les dirigeants vont se voir décerner les médailles du comité olympique.
Oui, c'est les éclairs olympiques. On y était l'année dernière. Hein, c'était une grande première pour vous. C'est une chose que vous allez perpétuer tous les ans.
C'est reconduit cette année.
C'est une façon de reconnaître tous les grands sportifs de notre département, de notre région.
Les sportifs, il faut savoir que...
Et puis les bénévoles aussi.
C'est surtout là-dessus que je voulais insister. Les sportifs sont déjà reconnus dans leur fédération, mais c'est vrai que c'est tous ceux qui sont dans l'ombre. Et si les sportifs peuvent avoir leur sport, peuvent pratiquer leur sport, c'est grâce aussi aux dirigeants qui sont tout autour. Donc il faut absolument les mettre en valeur, que ce soit les arbitres, que ce soit les éducateurs, oui, les dirigeants. Donc il y a la palme du bénévolat aussi qui sera remise ce jour-là. Il y a les prix du fair play également. Donc c'est la grande fête des dirigeants au niveau à Versailles.
Comment se fait le choix? Comment se fait les votes? Il y a un public qui vote? Il y a une commission qui vote?
Ce sont des propositions qui sont faites par les comités départementaux sportifs. Donc les propositions sont faites et ensuite il y a un jury. Dans le jury, il y a des personnes du CDOS, des personnes du Conseil Général et de la DDJS.
D'accord. Et il y a un vote et puis après...
Tout à fait. Donc il y a la médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze.
Donc ça veut dire que là, on connaît déjà les gens qui vont recevoir leur médaille le 23 janvier.
Pas du tout. Donc les comités départementaux doivent nous renvoyer leur proposition pour le 14 décembre. Et une semaine après, pratiquement, nous saurons qui sera désigné.
Ça tombe bien. On parlait des arbitres. Et il y avait justement hier les journées d'arbitrage.
Tout à fait.
C'est aussi un mouvement que vous avez dû accompagner, Michel, à travers vos activités dans le CDOS.
Ce qu'on souhaiterait, justement, il existe, c'est bien... Au niveau du football, et je crois que dans beaucoup de domaines, le football est précurseur, nous souhaiterions effectivement, il n'y a pas que des arbitres dans le foot. Il y a des arbitres, que ce soit au judo, que ce soit... S'il y a des premiers, des deuxièmes et des troisièmes, c'est parce qu'il y a un arbitrage. Donc nous souhaiterions effectivement l'étendre à l'ensemble des arbitres de toute la France, mais de tous les sports. Et je pense que si on veut en faire, c'est à la journée de l'arbitrage, mais on voudrait en faire une journée nationale de tous les sports au niveau des arbitres.
Donc ça sera une des grandes actions. Tiens, il pourrait y avoir un colloque sur l'arbitrage, justement. Vous avez déjà fait ce colloque?
Pas encore, mais bon, merci de nous le suggérer.
D'accord, bah oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas, justement.
Hein, eh ben voilà, vous voyez les bonnes idées, elles partent d'Hervé. Alors, Michel, il y aura... Oui.
Oui, il y avait encore autre chose. Il y a deux grandes manifestations. Il y a encore deux grosses manifestations. Nous l'avons initiée donc en 2006. La journée... La commune la plus sportive des Yvelines.
Oui, j'allais justement en parler parce que on est quand même partenaire sur cette opération.
Tout à fait.
L'année dernière, c'était une grande première, parce que tous ceux qui nous écoutent ce matin, il faut que ils fassent un dossier déjà pour se présenter pour l'édition 2008, c'est important.
La première réunion de la commission est prévue le mois prochain. Donc les dossiers, alors vous savez que mois de mars, il va se passer des grandes choses dans les communes. Donc le 9 et le 16 mars. On ne peut pas envoyer des dossiers avant. Les équipes municipales peuvent être conduites comme ne peuvent pas être reconduites. Donc juste après les élections de mars, nous enverrons dans les dossiers, comme nous l'avons fait il y a deux ans, puisque c'est tous les deux ans les dossiers de candidature dans toutes les communes.
Alors, c'est une super idée, ça.
La différence cette année, c'est que nécessairement, lorsqu'une commune enverra son dossier, il y aura la visite de deux personnes du CDOS qui iront voir sur le terrain comment ça se passe. Auront des relations avec, que ce soit les associations sportives, que ce soit les éducateurs, que ce soit l'adjoint au sport ou monsieur le maire, pourquoi pas, mais il y aura justement un rapport du comité olympique là-dessus. Ce qu'on n'a pas pu faire parce que c'était la première édition.
Ouais, ça c'est une super idée. Et comment est venue cette idée? Ça a été un peu copié sur ce que faisait l'équipe avant dans la ville la plus sportive.
Pourquoi pas, mais soyons plus modestes. Il se trouve que j'ai participé au congrès il y a deux ans à côté de Nantes, à Carquefou, congrès du GDOS, et j'ai un collègue qui était à côté de moi, donc qui était des Pays de Loire, qui avait organisé ça, lui, sur au niveau des Pays de Loire, au niveau de la région, donc au niveau du CROSS, le comité régional olympique et sportif. Et puis, avec Jean-Loup Leplat, je me suis dit, bon, on pourrait peut-être essayer de faire ça au niveau de notre département, et c'est vrai qu'après, on a découvert ce qu'avait fait l'équipe. Mais bon, il n'est pas question de refaire ce qui est fait. D'ailleurs, c'est bien ce que fait l'équipe. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus modeste au niveau de notre département. Pour une première édition, on a eu 15 villes qui ont répondu à notre appel. C'est beaucoup plus qu'on ne pensait. Cette année, je pense qu'on devrait doubler le nombre de villes.
Alors, on va rappeler que dans notre zone d'écoute, il y avait deux villes qui avaient été récompensées. Il y a eu Oudan et Montigny-le-Bretonneux. Hein,
tout à fait. Hein, et Triel, sur scène.
Oui, Triel, beaucoup plus loin, hein, qui peuvent nous écouter sur Internet. Parce que, bon, il faut dire d'abord que, pour rappeler le principe, hein, on a d'abord, c'est en fonction du nombre d'habitants. C'est ça, il y a des fourchettes de 5000 à...
Il y a un certain nombre de critères.
Voilà, c'est ça.
Effectivement, nous évaluons les équipements sportifs, le budget général de la commune avec le budget du sport, le nombre d'éducateurs, le nombre de licenciés, les grands projets sportifs de la commune. Mm-hmm. Et nous essayons, et il y a une note qu'on dit, le note coup de cœur.
Ah oui,
qui fait
souvent pencher la balance.
c'est tout à fait vrai, parce qu'entre les Mureaux et Saint-Quentin, il n'y a eu qu'un point de différence.
Ouais. Et donc, naturellement, très réceptif. Et on voit parfois hein, un budget plus important avec moins de pratiquants. Ça, c'est révélateur hein, d'une politique sportive au sein d'une commune. Hein.
L'appartement que nous le remettons au niveau pourcentage, effectivement, tout est possible.
Donc, on va rappeler que on peut venir porter ces dossiers après les élections municipales. Hein.
Le dossier sera envoyé. Donc il reste à le remplir. Pratiquement, je crois que toutes les communes ont suffisamment de secrétariats pour pouvoir le faire. Et les récompenses seront données début 2009, pratiquement. Mm-hmm. Mais les villes qui seront déterminées seront fin 2008.
Alors, il y a une présélection au départ, et oui. Après, il reste une sélection où là, on se réunit tous hein, oui. pour décider des villes les plus sportives. Hein, mais il y a une première présélection quand même.
Tout à fait. Tout à fait.
C'est sur le critère qui est défini. On va rappeler quels sont les membres qui siègent hein, pour cette présélection.
Il y a nos partenaires de la presse écrite et de la presse parlée. Mmh. Il y a...
Donc TVFIL, les nouvelles RVE.
Oui. Hein, voilà. Il y a presse écrite, c'est les nouvelles de Versailles. Okay. Nous avons donc la DDJS qui est présente. Nous avons le comité olympique et le conseil général.
Les
Yvelines.
Ok. Et alors, il y a un nombre requis d'inscriptions ou alors autant de villes qu'ils veulent.
On n'a pas limité. On n'a pas limité. Mais bon, on verra par la suite. Mais je crois que on avait lancé l'essai pour reparler du rugby. Et je crois que on a eu du monde.
Ouais. Donc ça, c'est vraiment une énorme fête hein, que d'avoir fait effectivement cette action. Et vous êtes encore novateur hein, pour le département.
Autre action.
Il y a peut-être d'autres départements qui vont faire pareil, Michel, après.
On a eu une demande du département de l'Oise,
oui.
Qui lui souhaiterait le faire au niveau de la Picardie.
D'accord.
Au niveau du comité olympique. Donc, vous voyez, donc ça, bon, ça marche bien. Une autre innovation pour 2008. 2008, je pense que là, vous allez tous être très fervents des Jeux Olympiques de Pékin.
Bien sûr.
Donc, à partir de là, on s'est dit que les Yvelines ne pouvaient pas passer à travers. Donc, à partir du mois de janvier, nous avons rendez-vous avec l'inspecteur d'académie, là, dans les prochaines semaines. Le rendez-vous est déjà pris, d'ailleurs. Et nous avons l'intention de lancer un concours de dessin. Mmh. Dans toutes les écoles primaires des Yvelines, où l'instituteur ou le directeur d'école se portera volontaire. Donc ce sera le thème, le vélo à l'olympisme de la Chine, ou un nom comme ça à peu près.
D'accord. Mmh. Donc là, ça rejoint vos deux étiquettes, au GDOS et puis au vélo. Hein.
C'est un peu ça. Les Jeux Olympiques étant un multisport.
Oui, bien sûr. Et puis bon, de toute façon, ça sera l'événement de l'année sportive, hein, qu'on le veuille ou pas. En plus, en Chine, on essaiera de voir ce qu'on peut faire, nous, pour la couverture de cet événement. Parce que en plus, ça sera en pleine période d'été. Il y aura des petits décalages horaires. Mais ouais. Bon, ça sera l'événement sportif de cette année. Voilà. Eh bien, écoutez, vous êtes toujours donc sur RVE avec Michel Martin, hein, donc, qui est venu nous parler de ses activités de président du comité donc, départemental de cyclisme. Et qui, maintenant, dans cette deuxième partie d'émission, nous parle de ses activités au sein du GDOS. On va marquer une troisième pause musicale. Et puis ensuite, Michel, le temps passe très vite. Hein, vous n'êtes pas venu pour rien. Hein, 2 heures d'émission, vous voyez. Donc, vous n'êtes pas venu pour rien. Eh bien, on va poursuivre et continuer et finir donc cette deuxième partie de Tribune Sport ce matin. Eh ben, effectivement, il se débrouille très bien, Olivier, pour de bons résultats. Et on va justement parler du Tour du Burkina Faso, parce que c'est aussi une des particularités, et ça plaira à l'homme de vélo qui est Michel Martin, hein, de ce Tour du Burkina Faso. On en parle de plus en plus, et puis on a un des commissaires de Burkina Faso, qui est commissaire Michel sur le Tour de France, que votre fils doit connaître. Et qu'on avait interviewé avec Olivier.
Exactement, il y a 2 ans.
Ouais, voilà. Alors Olivier, le Tour du Burkina Faso, c'est pour quand ?
Alors le Tour du Burkina Faso, c'est déjà le tour le plus célèbre d'Afrique, du continent africain, qui prend une mesure et une dimension supplémentaire. Alors le Tour du Burkina Faso est parti vendredi et il va s'achever le 5 novembre. Alors c'est une course de 10 étapes. Et la deuxième étape a été renforcée par un Français. Il s'agit de Michael Schnell, qui l'a remporté au sprint donc samedi entre Léo et Ouagadougou, soit un parcours de 158 km. Alors le maillot jaune, parce que c'est aussi un maillot jaune que porte le leader sur le Tour du Burkina Faso, eh bien c'est un Marocain. Il s'agit de Moussine Lesseni, qui a également le maillot vert de la combativité, car le maillot vert, en fait, dans le Tour du Burkina Faso, c'est le maillot de la combativité. Alors au classement général, le premier Français est troisième. Il s'agit de Jérémy Galland. Alors sinon, les Africains de l'Afrique du Centre et de l'Afrique de l'Ouest ont un peu de difficultés dans ce Tour de Burkina Faso, car il y a beaucoup d'Européens qui s'engagent sur cette course, ou des Africains du Nord. Et donc le premier Africain de l'Ouest, il s'agit de Saïdou Rouamba, qui est à la 20e place au classement général. Donc c'est pour ça, hein, je vous disais au tout début que c'était la 21e course du Burkina Faso. Au départ, il y avait beaucoup d'Africains, et là on se rend compte depuis 2 ou 3 ans qu'il y a des Européens qui viennent sur cette course.
Michel, quels sont les coureurs européens qui vont participer au Tour du Burkina Faso ? Ce sont des bons amateurs, parce que ce ne sont pas des professionnels connus.
On le connaît bien. Dans les Yvelines, on connaît bien le Tour.
Oui, c'est ça, c'est pour ça que je pose la question.
Parce qu'il y a une équipe des pompiers qui a participé à un certain nombre d'années, dont l'année dernière. Mmh. Alors, j'avais rencontré quelques-uns qui sont licenciés à Gambay et qui avaient eu des petits soucis gastriques.
Oui, parce qu'on en a des images tous les ans. Puis bon, c'est vrai que ça meuble un peu l'intersaison dans le sport cycliste, et on voit d'abord, on l'a dit, hein, le Tour de France maintenant est partie prenante dans l'organisation. On a donc un des commissaires qui est aussi commissaire sur le Tour de France. On l'avait interviewé avec Olivier il y a donc 2 années, hein, c'était lors de l'arrivée du Tour 2006. Et puis c'est une difficulté pour les coureurs européens d'aller se confronter, parce qu'il y a la chaleur, il y a des conditions de course quand même un peu folkloriques.
C'est très particulier. Il faut savoir déjà que pour partir là-bas, il faut avoir un certain nombre de piqûres, si j'ose dire, pour voir
des vaccins,
de vaccins pour s'acclimater.
Il va avoir peur pour le vélo.
Ce sont des saines piqûres. Mm-hmm. Hein. Mais c'est vrai que c'est un tour très difficile. Ah. Et on a parlé tout à l'heure de Jérémy Galland. Je crois que tous les Yvelinois le connaissent, puisqu'il était licencié il y a encore quelques temps au CA Mantes-la-Ville.
Eh oui, c'est pour ça qu'il fallait parler du Tour des Yvelines. C'est un lien qu'on fait.
Tout à fait.
Et c'est bien que le vélo comme ça s'ouvre dans des sports comme l'Afrique, quand même, dans des pays comme l'Afrique, hein, le Tour du Burkina Faso, avec en plus, on le voit, des images, des commentateurs qui retransmettent ça toute la journée, hein, toute la journée ils font des commentaires sur la radio.
Mais l'ardoisier du Tour du Burkina est justement sur le Tour de France.
C'est pas le commissaire dont je parlais, c'est l'ardoisier, voilà, c'est ça. C'était lui, hein, alors je sais plus son prénom, mais...
C'est Michel, mais je sais
pas. C'est Michel, c'est ça, voilà. C'est lui qu'on avait interviewé, c'est pas le commissaire, autant pour moi, mais c'est l'ardoisier, effectivement.
Ça devient une célébrité là-bas.
Oui. Et je peux vous dire qu'on avait fait l'interview sur le Tour, c'était une célébrité. Il y avait beaucoup de monde autour de lui.
Tout à fait.
C'est une véritable idole sur le Tour de France.
Mais je crois que effectivement, le fait que ASO soit partenaire du Burkina Faso, on a fait justement une course. D'ailleurs, il y a des points UCI à obtenir. D'accord. Là-bas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'équipes européennes qui y vont. Mm-hmm. Beaucoup. Et cette année, il y avait une équipe de l'Orléanais. Donc c'est toute la région de l'Orléanais qui a cherché des coureurs pour pouvoir assurer le déplacement là-bas.
Ah ben c'est bien d'avoir parlé donc de ce tour. Est-ce qu'un jour on peut voir des Africains ou des même sur le plan français, des Guadeloupéens ou des Martiniquais dans le peloton professionnel? Parce que c'est bon, on sait que le Tour de Guadeloupe est énorme là-bas hein, au niveau popularité, mais pour le reste, c'est encore des sports qu'on découvre dans ces régions-là. Ben,
le gros souci, c'est au niveau financier, je crois, parce que quand il faut assurer le déplacement d'une équipe pendant 3 semaines sur le continent, je crois que c'est surtout là où ça pose quelques soucis.
Avec des vélos de fortune aussi. Si on voit ça sur le Tour du Burkina Faso.
Un petit peu moins.
Pour les Africains, un peu moins. On les aide maintenant. Hein.
Ça s'est professionnalisé, hein, parce que mine de rien, la moyenne de course, alors j'étais un peu surpris quand j'ai vu ça, c'est 43 km/h. 43 km/h, donc les vélos de fortune sont un peu mis de côté pour laisser place à des vélos un peu plus professionnels, je dirais. Quoi. Ouais. Et pour en revenir aussi aux cyclistes qui viennent des dom-toms, je pensais notamment à Thomas Vauclair. Hein, qui s'entraîne régulièrement et qui repart régulièrement de Martinique. Alors je sais pas s'il est né là-bas ou pas, mais je sais qu'il a passé pas mal de temps à la Martinique, Thomas.
Je crois qu'il est pas né en Martinique, mais il a vécu une partie effectivement
dans
en
sa
Martinique
jeunesse, hein,
et il y retourne durant l'intersaison. Là, je suis sûr qu'il y est maintenant hein, où il vient juste d'y partir. Hein. Très bien. Alors on va donc continuer sur les activités du dos. Hein, Michel, vous avez parlé de votre première casquette, le vélo, dans la première partie de cette émission. Là maintenant donc les différentes activité du dos. Donc on a parlé des éclats olympiques hein, qui vont avoir lieu au mois de janvier. On a naturellement parlé aussi de cette fête concernant les villes les plus sportives hein, avec des critères bien définis. Ça apporte quoi? Ça apporte une dynamique?
Je pense, et c'est fait pour ça d'ailleurs, et en même temps c'est pour donner une image des habitants qui manifestement de temps en temps ils voient qu'on va construire une piscine, on va construire un gymnase, mais c'est le fait justement de garder également des sportifs, mais aussi de faire participer l'ensemble de la population à tout le côté sport budgétairement, si j'ose dire. Mm-hmm. Donc à partir de là, donc je pense qu'il s'agit d'avoir une certaine fierté en disant, je suis premier ou deuxième ou troisième de la ville la plus sportive dans ma catégorie des Yvelines.
Mm-hmm. Ouais, c'est vrai que ça sensibilise les élus notamment. Hein.
On donne, nous, l'autorisation que des mairies peuvent donner suivant la catégorie qu'ils ont et suivant le prix sur leur papier en tête. Il y a certaines villes qui peuvent le mettre à l'entrée des communes sur les panneaux. Ils peuvent très bien marquer ville la plus sportive l'année. Tout est possible.
Alors, les villes les plus sportives, les éclats olympiques, donc les foulées olympiques, la fête du sport, ça fait des programmes bien remplis, bien fournis. Hein,
c'est bien rempli.
L'activité dans le vélo, ça fait quand même. Ce sont des gens qui sont sur la brèche, quoi. Toute l'année.
Mais oui, mais comme il y en a qui disent, s'il est à tel endroit, que ça doit rapporter. Je dois dire quand même, et tout le monde le sait, c'est qu'on est bénévole à 100%. Mm-hmm. Et c'est vrai que heureusement qu'aujourd'hui, je n'ai plus d'occupation professionnelle parce qu'il ne me restait plus grand-chose.
Alors pour vous côtoyer donc régulièrement au comité départemental olympique et sportif, ce qui est bien, c'est que vous venez tous de sports différents, d'horizons différents, mais il y a une parfaite harmonie, que ce soit Jean-Louis Leplat, Gabriel Tissier, vous-même ou également Jean-Claude Séguier, et puis tous les gens qu'on côtoie dans les comités départementaux, il y a vraiment une osmose parfaite. Hein. C'est ce qui vous permet sûrement de pouvoir organiser autant de manifestations sportives, hein, autant de grands moments sportifs et de grands mouvements sportifs.
Je crois que quand on est volontaire pour rentrer au conseil d'administration du GDOS, on doit laisser sa casquette de son sport et d'essayer d'en faire profiter l'ensemble de tous les sports. Mm-hmm. Et je pense que si on n'a pas cette volonté-là, c'est pas la peine de rejoindre l'équipe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est 20 au conseil d'administration, mais on a beaucoup de mal. On a d'autres projets, on a plein de projets, plein la tête, hein, ça fourmille, mais on est limité aux moyens humains. Oui. Mm-hmm.
Et alors donc, ce qui est assez donc remarquable, c'est que en plus, vous êtes combien au niveau des comités départementaux? Une trentaine hein, de tout le...
Il y a 65 comités qui adhèrent au comité olympique.
Mm, c'est ça. Et donc, tout le monde joue le jeu, hein, que ce soit le tir, que ce soit l'aviron, que ce soit le on les a eu ici, le ski nautique...
Je crois crois qu'aujourd'hui, et ce n'était pas le cas il y a encore quelques années, le comité olympique est reconnu sur l'ensemble des îles, que ce soit par les institutionnels, que ce soit par les comités départementaux sportifs. Quand ils nous sollicitent pour être présents à leur assemblée générale, quand ils nous sollicitent pour avoir des coupes, pour les représenter, je crois que nous sommes là, et d'autant plus que nous sommes présents en permanence maintenant dans la commission départementale du CNDS.
En plus, oui.
Donc on en fait un partenaire.
Alors, on parlait tout à l'heure de l'énorme déception de ne pas avoir donc eu les Jeux pour 2012. Hein. Hors antenne, on parlait aussi un peu des Jeux Olympiques. Vous êtes quand même plutôt pour qu'on favorise des sports moins médiatisés aux Jeux Olympiques, comme la pétanque, comme le ski nautique, comme la pelote basse, par rapport à des gros sports professionnels comme le tennis, le foot ou même le vélo. Hein.
Le choix,
c'est une reconnaissance pour les sportifs.
Le choix des disciplines est donné par Henri Serrandour au niveau du CNSF. Mais d'un autre côté, puisqu'il fait partie de l'instance internationale, c'est vrai que on peut se dire pourquoi y a-t-il dans les Jeux Olympiques des sports professionnels. On peut se poser la question. Maintenant, c'est vrai que chacun peut dire ah ben moi je préférais que tel sport soit aux Jeux Olympiques et pas tel autre. Et c'est vrai que c'est un choix, difficile. D'un autre côté, il faut connaître les règles. C'est que aujourd'hui, il y a un certain nombre de sports qui sont réputés olympiques, et si on en fait rentrer un autre ou deux autres, il va falloir qu'il y en ait d'autres, le même nombre sorte. Le nombre est régularisé.
Mais c'est basé sur quoi ? Sur le nombre de fédérations internationales ? Comment on peut décréter qu'un sport soit sport olympique ? Par exemple, le baseball est un sport olympique.
Alors, Oui, parce que au départ, il faut que ce sport-là soit présent sur les 5 continents.
Voilà, c'est ça.
S'il ne l'est pas, manifestement, il ne pourra pas être élu olympique.
Donc le rugby n'est pas encore présent sur les 5 continents, hein, puisque même si l'Afrique du Sud est championne du monde, en Afrique, on ne fait pas beaucoup de ballons ovales.
Mais en dehors de ça, même à l'intérieur d'une discipline, je veux parler du vélo, il se trouve que pour faire entrer le BMX à Pékin, il a fallu qu'on enlève une autre discipline olympique, à savoir le kilomètre sur la piste.
C'était pourtant une des épreuves phares de la piste.
Il fallait choisir. Donc il y aura le BMX, et je pense que c'est une bonne chose. Le kilomètre, on a un très grand champion dans les Yvelines, qui est Grégory Bauger, qui n'est pas que sur le kilomètre, mais c'est vrai que c'était aussi sa spécialité. Maintenant, il ne s'est plus dirigé sur la vitesse, puisqu'il est champion de France de vitesse, et il est très très bon au niveau international sur la vitesse. Mais c'est vrai que le kilomètre, aujourd'hui, ne fait plus partie de la spécialité olympique.
Alors, quel sport est susceptible de devenir olympique prochainement ? Est-ce que vous avez éventuellement une idée du prochain sport qui pourrait devenir olympique ?
Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à la question.
Philippe, non, une idée ?
Oui, je ne sais pas, on parlait du rugby à 7 peut-être, on parlait de mais bon, on a dit le rugby n'est pas sur tous les continents, donc on verra, on parlait du golf à un moment, mais bon...
Pourquoi pas de la pétanque ?
Je pense que la pétanque, moi je pense que des sports comme le ski nautique et la pétanque, c'est vraiment idéal pour eux. Quoi.
Il faut voir dans d'autres pays si c'est pratiqué, parce que pour être champion olympique, effectivement, il faut quand même des concurrents suffisamment nombreux sur chaque continent pour pouvoir faire des éliminatoires, parce que chaque personne ne peut pas envoyer
Je sais qu'à un moment, on voulait supprimer certaines catégories de boxe, et puis on a aussi, donc pour le sport féminin, rajouté beaucoup de catégories. Hein. On parlait du waterpolo tout à l'heure, qu'on aurait espéré parler. Le waterpolo féminin, il est maintenant devenu sport olympique. Pareil pour la lutte féminine, qui est devenue sport olympique. Le judo, est sport olympique, le judo féminin, depuis pas très longtemps, je crois 88, depuis Séoul. Là aussi, ça se fait au détriment de d'autres sports.
Hein. Tout à fait.
Oui, parce que les Jeux durent 15 jours, ils ne peuvent pas durer 3 semaines.
Hein. Alors, je crois qu'il est important aussi, depuis quelques années, de parler aussi des sports des olympiques, paralympiques.
Ouais,
je crois que là, justement, au comité olympique départemental, on vient de créer, c'est pas vieux, c'est il y a 3 jours, la commission sport et handicap. Et je pense qu'effectivement, il faut penser surtout aussi à toutes ces clientèles-là.
Ouais, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, on en voit quand même, même de plus en plus des images médiatiquement, et c'est vrai qu'on est toujours en admiration devant les performances accomplies par ces athlètes paralympiques.
C'est la première fois au Tour des Yvelines 2007 que nous avions justement une course justement pour les handicapés. Il y a eu un monde énorme tout le long du circuit.
Et des non-voyants, hein, c'est ça, des non-voyants qui sont donc en gentleman, en double avec...
Les gros problèmes pour les non-voyants, c'est de trouver justement des guides, que ce soit en vélo, que ce soit à pied, etc.
Et nous, on en croise beaucoup à l'occasion, effectivement, des semi-marathons qu'on commente dans la région, que ce soit sur Bullion ou sur Ambouillet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs paralympiques. Voilà. Eh ben, Michel, merci d'avoir été notre invité pendant deux heures.
Hein, c'est
donc,
moi qui vous remercie.
Le vélo et puis donc, l'Olympisme. Alors, on va quand même rappeler très brièvement, d'abord, les, les prochaines grandes dates, hein, les prochains donc, rendez-vous du comité départemental olympique et sportif des Yvelines. Donc, le dîner débat.
Hein. Jeudi 15 novembre 2007, à partir de 19h à la Maison des Familles à Trappes.
Très bien. Et ensuite, ce sera donc au mois de janvier, les éclats olympiques. Ce sera le 23 janvier dans le... à Versailles. Hein, voilà, dans le salon de réception de Versailles.
Chacun peut consulter le site internet du comité olympique.
Oui, c'est vrai. Et puis pour le vélo, donc, la reprise, c'est pour quand
le comité départemental de cyclistes a également son site internet. Également. Mais la reprise officielle, c'est le 2 mars.
D'accord. Très bien. Merci, Michel. Bonjour à...
Merci à toi.
À tout le monde. Hein, à Jean-Louis Leplat, Gabriel Tissier, à Jean-Claude Séguier, tous ceux qui activement brillent donc pour bien faire valoir le sport dans notre belle région et dans notre beau département. Allez, tiens, il nous reste 5 petites minutes, comme c'est la reprise de Tribune Foot la semaine prochaine entre 10h et puis 11h. Eh bien, on va donner les résultats de foot. Ça fera plaisir à tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est pas encore France de foot, donc on peut donner les résultats, Olivier.
Alors, en effet, hein, hier, c'était la 12e journée de L1 qui va s'achever ce soir. Donc les résultats d'hier, Metz et Nancy ont fait match nul 0-0, Bordeaux a battu Valenciennes 2 buts à 1, Lorient-Nice 0-0, Saint-Etienne-Auxerre 0-0, Lille a perdu face à Strasbourg 3-0, Monaco-Caen 0-0 et Marseille qui sombre un peu plus puisqu'ils se sont inclinés sur la pelouse de Sochaux 2 buts à 1 après un match relativement correct face à Porto en Ligue des Champions mercredi où ils avaient fait match nul 1 partout.
Ouais, et c'est qui rate un pénalty, enfin c'est Richard qui l'arrête quoi.
Alors à suivre aussi la fin de cette 12e journée, donc cet après-midi à 18h à suivre Lens-Rennes, Rennes qui peut éventuellement monter sur le podium en cas de victoire et Lens qui peut s'écrouler un peu plus en cas de défaite. Le Mans-Toulouse à suivre également, Le Mans qui est bien placé hein, puisqu'ils sont 5e. Et enfin l'affiche de cette 12e journée à 21h à suivre Paris Saint-Germain-Lyon.
Ah c'est le choc au Parc des Princes.
C'est
hein,
le choc, alors bon... On dit,
Paris
on dit,
n'a pas gagné un match à domicile depuis
voilà,
la saison.
On dit que les Parisiens réussissent plutôt bien face à Lyon au Parc des Princes, donc ça sert à voir et à prouver. Et peut-être, comme tu le dis, hein, Philippe, la première victoire du PSG sur sa pelouse de cette année pour cette 12e journée.
Ouais, en tout cas, ça sera le match choc. Hein. Il y avait Stade Français Clermont hier pour le rugby au Stade de France. Il y a Paris Saint-Germain donc Paris Saint-Germain-Lyon donc ce soir au Parc des Princes. Moi, ce qui m'interpelle quand même dans les résultats, Olivier, c'est qu'on a eu 4-0-0.
4-0-0, ouais. Et l'année dernière aussi, on a eu beaucoup de 0-0 en Ligue 1 et 4 encore cette fois-ci. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de 0-0 depuis le début de la saison. Donc, alors je sais pas après si c'est les défenses qui sont vraiment fortes ou si c'est les attaquants qui sont en manque de réussite. Mais bon, faut voir. La journée n'est pas finie. Encore 3 matchs ce soir avec des équipes qui produisent un football assez offensif. Je pense notamment à Rennes ou encore au Mans. Mmh. Et Paris Saint-Germain-Lyon normalement devrait donner également une belle rencontre avec des buts. Maintenant tout est possible dans le football.
Oui, avec une équipe de Lyon donc, qui va quand même beaucoup mieux hein, et puis qui semble reprendre les rênes du championnat après un début de saison assez mitigé.
En attendant les retours de Coupé et de Chris notamment.
Oui, et puis bon, pour la Coupe d'Europe ça se passe un peu moins bien. C'est mieux pour Lyon donc depuis sa victoire contre Stuttgart. Et Marseille, un paradoxe quand même, c'est que même s'ils s'en tirent plutôt bien pour le match contre Porto donc mercredi, ils jouent les premiers rôles simplement donc, de la Coupe d'Europe. En championnat, ils sont en Ligue 2 pour l'instant.
Je crois que pour Marseille, s'ils parviennent à faire un beau résultat pour la prochaine journée de Ligue des Champions, ils vont miser toute leur saison sur la Ligue des Champions. Alors Lyon, c'est pareil, je pense qu'ils peuvent également se relancer hein, s'ils gagnent face à Stuttgart chez eux à Gerland. ils peuvent revenir éventuellement dans la course et rien n'est fini pour Lyon, parce qu'on se rappelle les années précédentes ça avait été assez facile pour eux pour les phases de poule et ils s'étaient écroulés ensuite. Et là, cette année, bon, ils vont peut-être avoir un parcours plus difficile en poule pour mieux réussir par la suite dans les phases finales.
Très bien, merci Olivier d'avoir participé ce matin à notre émission, hein, d'avoir notamment parlé du Tour 2008. On va remercier Michel Martin donc, pour sa présence concernant eh bien, le comité départemental donc, de cyclisme et puis le comité départemental olympique et sportif des Yvelines. On a eu une émission bien remplie et bien chargée ce matin. Et puis aussi un petit point sur le rugby avec donc, l'après-mondial. On vous laisse avec Radio Village. Puis la semaine prochaine, ben, on reviendra à 9h-10h. Tribune Sport, on parlera de basket et puis ça sera aussi la remise en forme avec Alexandre et puis le grand retour de Tribune Foot entre 10h et 11h la semaine prochaine. Bon dimanche et bonne semaine. Bye bye.